Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, donc à suivre Eva Rock, qui va nous donner toutes ses différences dans son zapping du lendemain, et Bertrand Chameroy pour un écran de veille spécial monstre sacré.
Bah, je vous ça. Veux dans mon équipe.
Et bah, je le joue, non ? Je
ah
le
ouais,
joue.
C'est brillant.
Hein ? Merci beaucoup. Notre invité culture, le chanteur Frédéric François, pour son nouvel album, là je le joue pas, La Liberté d'Aimer. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, les conseils signés, de Mathieu Charrier, et également signé Mathieu Charrier. Et puis une nouvelle série entre polar social et conte fantastique avec Margot Barallon. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Je suis content que vous ayez apprécié mon impro. Et
oh là là, vous êtes magnifique. Vous devriez chanter plus souvent.
Oh là, jamais. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe.
C'est l'écran de veille, c'est votre écran de veille Bertrand. Vous scrutez tous les écrans. Qu'avez-vous regardé hier ?
Le nouveau Mission Impossible. Si, si.
Oula.
Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, réaliser une interview de Gérard Depardieu pour le site Combini. Attention, l'individu est franc, ne s'embarrasse pas de politesse et peut se montrer parfois rude. Il vous recevra dans son jardin, chez lui, donc sur son terrain. Votre confiance en vous s'autodétruira 5 secondes après le début de la dite interview. Alors pas de doute, c'est bien le vrai Gérard Depardieu qui a répondu à Combini.
T'apprends comme moi, tout seul. Ils sont en train de vider ma loge, là.
Il vide ma loge alors qu'on entend du verre teinté, c'est bien Depardieu. Alors comme on l'aurait tous fait, c'est avec un mélange d'admiration, de crainte, de respect et de peur que le journaliste s'est lancé dans l'interview. Un peu comme quand je demandais à mon grand-père et ses grosses mains calleuses, la voix chevrotante après le repas du dimanche. Et papy, donc, ça se passait comme ça à la guerre? Et qui me répondait, mais pas du tout, et qui me raconte là mon petit, écoute voir.
Dès les premières pages de votre livre, vous évoquez comment votre mère... Avec
Non mais ça on l'a dit, bien sûr ça va très bien, mais ça ils liront, je l'ai dit, j'ai fait 4-5 livres, ça y est dedans.
Ça y est, 13 minutes 46 d'entretien au total qui ont dû sonner comme une éternité pour le journaliste qui a expliqué sur Twitter avoir passé 15 minutes à interviewer Depardieu en improvisant totalement, bien tenté, le coup de l'impro s'en fiche, car GG c'est un instinctif, c'est un animal. Mais bon, l'impro et les questions fermées, ce n'était clairement pas la bonne technique. Tu sens que dans sa carrière, GG, il en a vu passer d'autres et que dès comme celui-ci, il est bouffré rôti avec des pommes grenailles au gras de canard avec un verre de Bourgogne.
Une idée de perte de contrôle, en fait.
Non.
Et vous citez le prisonnier d'Alcatraz avec Bertrand
Cantat. Non, mais ça, c'est autre chose.
Est-ce que le cinéma, ça vous a fait renaître ?
Non.
C'est une leçon que vous avez apprise, justement, qui vous convient aussi ?
Non.
Non, je me demandais si vous voyez, je sais pas, des expositions, des lectures, de la culture. Est-ce que c'est ça aussi
non.
qui vous donne envie ?
Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça ?
Voilà.
Alors, il n'avait pas envie.
Pour tenter d'apprivoiser Depardieu, astuce numéro 2, le journaliste lui montre qu'il a lu le livre qui s'appelle « Ailleurs ». Donc pour amadouer la bête, il lui lance de grandes perches ou des fusées de détresse, appelez ça comme vous voulez, pour montrer qu'ailleurs, le livre « Ailleurs », il l'a bien lu « Ailleurs ». C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des questions tournent autour de...
C'est quoi votre définition de l'ailleurs ? Enfin, comment vous allez vers l'ailleurs en fait ? Et pas justement agir dans le sens de l'imprévu de l'ailleurs aussi ou... Et pour vous, du coup, c'était naturel de partir et justement d'aller vers ce fameux ailleurs.
Je ne suis pas parti pour ça.
Mais rien n'y fait. On sent qu'on frôle le point de non-retour quand Depardieu prévient.
Quand j'en ai marre d'être là, par exemple. Là, par exemple, là, tu vois, si jamais je me fais chier, bah, je me barre.
Bon, bah, après sommation et à force d'entendre parler d'ailleurs, il a mis son plan à exécution et je vous laisse deviner où il est allé.
Quand tu vas ailleurs, tu n'as pas besoin d'agir puisque tu es ailleurs. Donc, qu'est-ce qui reste à faire ? À comprendre d'ailleurs. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu vas comprendre la langue même si tu ne la parles pas. Bon, bah c'est tout, c'est bon là, je crois. On est bon.
Et cut, sortie de chambre Depardieu, fin de l'entretien, il s'en va.
Même pas au revoir.
Non. Pour sa défense, le journaliste a expliqué toujours sur Twitter que Depardieu était, je cite, « déjà énervé d'une interview qui venait de se dérouler ». Or, en observant les images, on note que Depardieu est vêtu de la même façon que lors de son portrait de la semaine dans 7 à 8 sur TF1. À cet instant, plusieurs pistes se fracassent dans mon esprit. Soit Gérard Depardieu s'habille tous les jours de la même façon, tel un personnage de dessin animé, soit, et c'est plus plausible, il a répondu aux questions de Combini le même jour que 7 à 8. La personne à l'origine de l'ire de Gérard serait-elle donc Audrey Crespo-Mara ? À l'heure qu'il est, il est trop tôt pour le dire, les éléments me manquent. Seule certitude, dans ce panier de crabes que sont les médias, mieux vaut avoir les écailles dures pour interviewer de gros poissons, car leurs coups de nageoire peuvent être terribles. C'est fier de ma métaphore marine que je me resservais un bourbon en contemplant le portrait d'Eva Rock qui trônait dans mon bureau.
Mais tout est vrai.
Non,
parce qu'il y a vraiment un portrait d'Eva Rock sur votre bureau.
Ouais, bien
mais
sûr.
Mais il ne boit pas de bourbon, c'est ça.
Bon, Eva.
Oui.
Ça y est, c'est à vous, on se projette dans l'avenir avec vous, l'avenir proche. Il s'agit de notre soirée devant les écrans. Et surtout, c'est d'autant plus important que maintenant, il y a le couvre-feu.
On est d'accord.
Le thème du zapping du lendemain, Eva.
La différence, celle de l'autre, comme le personnage de la série Good Doctor sur TF1. Le docteur Sean Murphy est un brillant chirurgien et autiste, doué dans son métier, moins quand il s'agit de communiquer avec ses semblables. N'empêche qu'il a une amoureuse et tout va bien entre eux, extrait d'une réunion de travail avec les collègues médecins.
T'es en retard.
J'ai cuisiné un vrai petit déjeuner à Carly ce matin et ça lui a donné envie de faire l'amour. Alors on l'a fait.
C'est super, Sean. Mais la prochaine fois, tu peux juste nous dire que t'as raté ton bus.
Les femmes n'aiment pas quand les mecs racontent leurs exploits, même si elles le font tout le temps.
Non, jamais au boulot.
Ça se voit que tu vas jamais dans la salle de repos des infirmières.
Alors la série, elle est très classique sur la forme, mais elle possède un petit supplément d'âme grâce à ce personnage qui est campé par Freddie Highmore. Et surtout, la fiction est redoutablement efficace, difficile de ne pas enchaîner les épisodes. Autre programme, autre différence, sur Arte, les Black Panthers se racontent et expliquent comment ils ont lutté pour effacer la différence entre blanc et noir. Mais d'ailleurs, pourquoi la panthère? Eh bien, réponse avec Huey Newton, cofondateur des Black Panthers.
On a pris la panthère noire comme symbole, en raison de la nature même de cet animal. Une panthère ne frappe pas la première. Si on l'attaque, elle commence par battre en retraite. Mais si on la cule, alors elle frappe.
Voilà, le message est clair. Et au début de cette aventure, vous allez le découvrir, dans les années 60, et avant l'assassinat de Martin Luther King, les Black Panthers, eh bien, ils séduisent. Ce mouvement politique de libération afro-américaine devient le porte-parole d'une communauté, avec ses codes.
Il y avait un rythme. Un rythme dans notre diction, un rythme dans notre démarche. Les gens s'en rendaient compte. On sortait du lot. Dans la rue, on se serait fait insulter. Oh là là, quelle mocheté! Mais le fait d'être membre du parti nous conférait un sex appeal extraordinaire.
Alors la suite de l'histoire, elle est moins glamour, entre violence, crise d'ego, trahison, guerre avec le FBI. Le documentaire en deux parties est passionnant, rythmé par des archives étonnantes, et puis des témoignages d'anciens du parti Black Panthers, mais aussi de ceux qui les ont combattus. Et puis la différence, elle est également présente dans une cour de récré. Titeuf, le héros de Zep, le sait trop bien. Autour de lui, il y a Hugo, le gros, ou encore Jean-Claude, celui qui postillonne les zozotes. Tout ça, Titeuf, il s'en fout, ce sont ses copains, donc c'est ça le principal. Et puis il n'a qu'une idée en tête, séduire Nadia. Il a d'ailleurs trouvé un moyen de lui clamer son amour.
Je vais lui envoyer une lettre anonyme.
Quoi ?
C'est une note d'amour, mais je la signe pas. J'imagine plein de trucs, elle rêve à son prince charmant, tout ça.
C'est toi le prince charmant ?
Bah oui, c'est moi. Mais le sais pas, puisque je suis anonyme. Oh, t'es vraiment un nul du zizi sexuel, toi.
Bah oui, t'es un nul du zizi sexuel. Voilà, Nadia sera-t-elle sensible à ces mots? Allez savoir, je récapitule. Good Doctor est à voir sur TF1 à 21h05. La différence de peau, c'est sur Arte à 20h50 avec le documentaire Black Panthers. Et puis la différence entre copains, c'est Titeuf. Le film est à 21h05 sur France 4. Les enfants, ils ont le droit de regarder, c'est des vacances.
Et puis c'est pour eux surtout, Titeuf.
Bah oui.
C'est vraiment pour eux. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Bertrand Chameroy. À demain. Avec ou sans Depardieu. Restez avec nous, auditeurs, auditrices. Nous revient dans un instant avec notre invité Frédéric François. Mais juste avant cela, Jake and Fanny.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
Bonjour Frédéric François.
Bonjour,
merci
bonjour
d'être
à toutes,
ici.
Bonjour à tous.
Vous êtes chanteur, musicien, vous chantez l'amour à l'italienne, comme vous dites et comme on dit depuis 50 ans. Je vais juste donner deux chiffres pour situer une carrière hors du commun et parfois à l'abri des médias. 40 millions de disques vendus, 40 millions, 85 disques d'or.
Oui.
85 disques d'or, c'est un chiffre comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque album que vous avez sorti est devenu un disque d'or, c'est
voilà,
ça?
Voilà, tout a commencé dans les années 71 en Belgique avec un premier disque d'or.
Et non mais ça c'est facile. Ce qui est difficile, c'est que ça continue. C'est
oui.
Ça qui est dingue chez vous.
Alors, je suis arrivé en France, je voudrais dormir près de toi, laisse-moi vivre ma vie, viens te perdre dans mes bras, de Venise à Capri, on comprend toujours quand c'est trop tard, Chicago. Et puis, dans les années 80, ça ne s'est jamais plus arrêté. Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, est-ce que tu es seul ce soir? Et voilà. Et j'ai traversé les années 70, 80, 90, 2000, et nous voilà encore aujourd'hui. Chaque disque est un disque d'or. Mais voilà, je pense que c'est le public. Moi, je n'ai pas de recette, en fait, pour faire des tubes. J'y mets mon cœur, j'y mets tout. Et puis je me dis tout le temps, waouh, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont apprécier? Et ça devient un succès.
Triple actualité, l'Olympia le 30 octobre, pas ce vendredi mais le suivant. Nouvel album, La Liberté d'Aimer, il va sortir le 13 novembre et tournée européenne à partir de février 2021, donc le prochain mois de février. Mais d'abord, ce nouvel album, La Liberté d'Aimer, il est différent des autres, je l'ai entendu, mais vous, comment vous l'avez conçu? Où est-ce qu'il est comme tous les autres et il n'y a quasiment que des chansons d'amour?
Il n'y a quasiment que des chansons d'amour. Voilà, ben je l'ai conçu comme je fais toujours d'habitude. Les chœurs sont faits à Los Angeles, à Paris. Les mixages sont faits à Shanghai.
À Shanghai ?
Oui.
Pourquoi ?
Oui, parce qu'on travaille par...
à distance par, Vous allez à Shanghai ou il y a des gens à Shanghai
pas.
Qui mixent ?
Oui.
Non, mais attendez, il y a un petit atelier chinois qui mixe vos disques ?
Oui, c'est pas chinois, c'est un italien qui s'appelle Luca Bignardi.
Non, mais Shanghai, c'est en Chine.
Oui, il est parti vivre là-bas.
Ouais.
Et donc voilà, il mixe Laura Pausini, il a mixé tous les grands italiens. Et moi, j'adore Ramazzotti et j'adore sa façon de mixer. Il a mixé tous mes disques, mais il est à Shanghai. Et quand il mixe, voilà, par You Send It et tout ça, il nous envoie le mix. Nous, on est en FaceTime et tout. Et je lui dis, Luca, un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Et puis, nous l'envoie, on le télécharge et la chanson, elle est faite. Voilà. Chacun est dans son coin, chacun travaille. Il y a un orchestrateur qui a un home studio. Moi, ben, j'ai travaillé dans un home studio aussi chez moi. Et voilà, on est plusieurs dans le monde à travailler.
C'est vous qui composez les musiques, mais ce n'est pas vous qui écrivez les textes.
Voilà. Moi, j'écris de la musique depuis tout ce que vous chantez depuis des années. C'est moi qui écris les musiques. Et là, les textes ont été écrits par Fred Zetoun.
On va entendre les premières mesures de la chanson La liberté d'aimer, chanson qui donne le titre à l'album. On écoute.
Un baiser fugace et discret de femme qui se cache pour s'aimer partout dans ce monde.
Alors je cite les paroles, deux femmes qui se cachent pour s'aimer, partout dans ce monde en émoi, il y a trop d'amants hors la loi. Et ensuite, strophe suivante, deux hommes tout tremblants de désir rêvant de quitter leur pays, coupables d'amour interdit. Pourquoi ce choix d'ouvrir l'album avec une chanson qui évoque la répression de l'homosexualité dans certains pays ?
Oui, pas seulement que l'homosexualité, si on avait été plus loin, il y aurait eu, par exemple, c'est les amoureux de Vérone,
oui. Hein,
que rien ni personne ne raisonne.
Enfin, les amoureux de Vérone, c'est Roméo et Juliette, c'était il y a plusieurs siècles. Mais
oui,
là,
mais c'est ça. Mais il y a aussi
des femmes qui se cachent pour s'aimer.
Il y a aussi les couleurs.
Ou des hommes qui rêvent de quitter leur pays.
Oui, mais il y a aussi les couleurs. Attention, ouais. Ne pas prendre que... en fait, ce sont tous les amours. C'est une chanson sur tous les amours. C'est-à-dire qu'habituellement, j'ai toujours chanté l'amour, bien sûr. Mais là, on prend tous les amours, que ce soit les couleurs. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est voilà, laisser parler son cœur et se dire, voilà, on va développer les tonalités de l'amour, les formes.
J'ai compris. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand même, vous savez qu'il y a plein de pays où l'homosexualité est illégale, punie de peine de prison, à 2 heures d'avion. Hein.
Je ne sais pas
Algérie,
tout ça.
Je vais vous le dire, en Algérie, 2 ans de prison. L'homosexualité, c'est dans la loi. Tunisie et Maroc, 3 ans de prison. Égypte, 17 ans de prison. Comment ça va se passer si vous faites un
j'ai
concert là-bas
pensé...
Est-ce que vous allez chanter la chanson je vous pose la question. Est-ce que vous allez chanter cette chanson si vous faites un concert dans un de ces pays?
J'ai jamais pensé à tout ça. J'ai déjà été chanté en Algérie. J'ai déjà été chanté en Égypte. Et en fait, voilà, dans la chanson, j'y ai mis des sonorités.
J'ai compris. Ma question était, est-ce que vous allez chanter la chanson si vous devez aller en Égypte, un pays dans lequel l'homosexualité est punie de 17 ans de prison?
Ben vous me posez une colle, je ne pensais pas à ça, je voulais juste dire que, voilà, les êtres humains, il faut laisser leur cœur parler, et quand on laisse leur cœur parler, c'est à eux de choisir leur voie et où ils veulent aller. Voilà, c'est une liberté où chacun de nous a le droit. Voilà, tout simplement. Je n'ai jamais pensé à... En fait, le parolier, parce que ce n'est pas moi qui écris les paroles, mais on n'a jamais pensé que, voilà, dans tel pays et dans tel pays, waouh.
Après l'émission, on lui passera un petit coup de fil et on va laisser le cœur parler parce qu'il y a Hélène Manarino qui arrive pour votre portrait inattendu, Frédéric François. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Frédéric François, c'est la séquence émotion parce qu'Hélène m'a dit qu'elle était très émue. Il y a plein de parallèles entre l'histoire de son papa et la vôtre d'histoire. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe
Hélène
Vandel.
Manarino.
Bonjour à tous.
J'ai pas dit votre nom.
Bonjour Frédéric François.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Che pour Francesco, Papou pour vos petits-enfants,
oui.
Chicho de la part de votre mama. Plus de 50 ans de carrière, comme l'expression que vous dites souvent, c'est de l'or. Alors justement, découvrons tous vos petits trésors, Frédéric François. Et puis, il y a surtout la famille. Tout cela est très précieux. Vos parents, votre coffre-fort, votre papa, comme vous dites, de là-haut, il est fier de vous. Et votre maman, qui faisait absolument tout pour vous. D'ailleurs, quand vous avez reçu votre premier cachet, lors de votre premier spectacle, vous les aviez déposés en dessous de sa tasse pour qu'elle trouve le billet de 50 francs au réveil.
Exact.
Et pour lui faire plaisir, parce qu'elle le méritait. Un cadeau de votre part. Et puis, il y a ces trésors que vous protégez en tant que mari, votre épouse, qui vendait les petits tickets de votre concert quand vous aviez 11 ans, qui s'habitue à vous voir fermer à double tour, partout, tout le temps, même les deux portes du couloir qui mènent à votre chambre, et qui vit aussi avec votre désordre. Mais comme vous dites si bien, quand vous ne retrouvez pas quelque chose, on m'a piégé.
Waouh. Vous connaissez toute ma vie. C'est formidable.
Le patriarche prêt à tout pour ses enfants, comme changer d'hôtel en Espagne quand il n'est pas très très bien. Mais pour ne pas vexer la direction de l'établissement, vous avez escaladé la grille avec votre famille sans rien dire et vous êtes parti. Alors, vos enfants, petits-enfants, votre âme de jeunesse, vous ne l'avez jamais perdue. Vous aimez courir autour de la table, vous mettre à quatre pattes pour faire rire la famille, mettre des cadeaux dans les suites à capuche des uns et des autres.
Oui, c'est vrai. Bon, il y a plein de choses qui sont vraies, bien sûr.
Et quand vos petits-enfants dorment chez vous, enfin chez leur papou, vous les réveillez toujours en inventant les chansons. Depuis très longtemps, vous faites ça avec vos enfants. Vous mettiez des perruques, par exemple, dès le matin, en venant les réveiller.
Non.
Et oui.
C'est vrai ?
Oui ? Ah bon ?
Ouais. Ah bah oui.
Qui vous a dit ça ?
Ah bah je ne vous dis pas, mais je peux vous dire que la personne était bien présente. Leur transmettre également l'un de vos dons, la guitare. Évidemment, vous leur apprenez la guitare électrique en tant que fan des Stones et des Guns N' Roses.
Ah, alors, c'est vrai ça.
Frédéric François, il y a aussi votre voix. Et ça aussi, c'est précieux. Une voix que vous aimez chauffer sur des chansons napolitaines, des chansons de vos racines, avec les grands ténors italiens comme Luciano Pavarotti et un classique inoubliable. L'Italie qui n'est jamais loin, elle est aussi dans votre cuisine. Enfin, c'est votre épouse qui cuisine. Comme vous êtes un peu désordonnée, c'est plus pratique. Vous n'êtes jamais très loin et vous ajoutez toujours votre petite touche personnelle.
Oui.
Une petite épice, par exemple. Ce que vous préférez, ce sont les pâtes réchauffées. Vous savez, celles que l'on met dans la poêle le lendemain.
Oui, c'est les meilleures.
Ah bah,
oui,
mon père, il dit pareil que vous.
C'est-à-dire que j'en fais plus. Et puis le lendemain, c'est moi qui les fais frire à la poêle. Et voilà. Pas trop, ils restent al dente et ils ont un goût extraordinaire.
Ah, oh là là,
les pâtes du lendemain, c'est de l'or.
Frédéric, voilà, France,
le mot,
c'est de l'or, l'or. On peut le dire, vous êtes aussi un homme précieux. Vous aimez prendre soin de vous, vous vous coiffez avant d'aller vous coucher. Et dès que vous réveillez, vous vous coiffez.
Comment
aussi.
Comment vous le savez ça ?
Non mais c'est pas ça la question, mais quel intérêt de se coiffer avant d'aller se coucher ?
Écoutez... C'est un tic que j'ai depuis toujours. Une fois que je suis dans ma salle de bain, eh ben je m'apprête, je me coiffe et tout. Waouh ! Et je vais me coucher. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et le matin, pareil.
Pareil, vous vous réveillez.
Que quand il y a mes enfants, ils me disent « Mais papa, tu sors aujourd'hui ?»« Non, je viens déjeuner. »
Mais c'est bien. Alors, Frédéric François, évidemment, encore sans dans un esprit sain, vous faites aussi votre petit tapis de course dans votre cave.
Ah, oui.
Vous avez su transformer toute votre carrière en disque d'or, chanter pour ceux qui vous aiment avec... Vos valeurs, celles de la famille, du travail, jamais loin de votre Sicile, c'est donc ça, aimer à l'italienne.
Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime.
Merci Hélène, vous êtes reconnue dans ce portrait.
Oh oui, 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 j'apprends la guitare à mon petit-fils, donc, parce qu'il aime bien les groupes rock. Et bien sûr.
Mais attendez, vous jouez du Guns N' Roses chez vous ?
Mais moi j'ai toujours. Avec l'orchestre, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Donc voilà, à un moment donné, on devait jouer tous les groupes.
Non mais maintenant, vous le faites encore avec une grosse gratte électrique et un gros son.
Oui,
super.
Oui. J'ai mes guitares, j'ai tout, j'ai les amplis et tout. Et j'apprends les petits-enfants à jouer de la guitare, bien sûr.
J'adore vous imaginer là-dessus. Merci beaucoup Hélène Manarino.
Merci,
à demain, à très vite.
Demain.
Vous restez avec nous Frédéric François. On va parler de cinéma avec Mathieu Charrier. Les coups de cœur de ciné, demain c'est mercredi, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
en compagnie de Frédéric François qui va sortir un nouvel album. C'est pas encore pour tout de suite. Il sort quand le nouvel album ?
Le 13 novembre.
Il s'appelle La Liberté d'aimer. Et puis vous serez en concert à l'Olympia le 30 octobre, c'est ça ?
Prochain, oui. Il a été déplacé.
Ouais.
Donc 2021, le 30 octobre.
Ouais.
Voilà, il était prévu avant, mais voilà, on a tout déplacé. Et toute la tournée a été déplacée parce que j'ai commencé au Grand Rex,
ouais.
Où on a cartonné, comme on dit. Et voilà, il y avait toute une tournée. Et puis, au mois de mars. Le 8 mars, j'étais à Montpellier et le 9 mars, je me suis confiné et c'est ma première sortie aujourd'hui.
C'est pas vrai.
Depuis le 9 mars. Je n'ai plus quitté la maison. C'est la première fois que je quitte ma maison et que je viens à Paris faire une émission.
Incroyable. Et vous avez choisi Culture Média. Un grand, grand voilà. Merci. Vous sortez au cinéma ou vous restez chez vous? Vous regardez les films de chez vous?
Non, le dernier cinéma que j'ai fait, vu qu'il y avait ce confinement, c'était le film avec Queen et puis j'ai vu le film avec. Queen. Oui.
Le biopic sur la vie de Freddie Mercury.
Oui, c'était magnifique. Ça m'a fait pleurer.
Bohemian Rhapsody. Et je précise que vous vivez en Belgique où ils viennent de reconfiner la Belgique, vous savez ça?
Oui, non seulement ils viennent de reconfiner, mais voilà, c'est encore pire, on ne peut voir qu'une personne. Et donc moi qui ai quatre enfants, il faut que je choisisse entre les quatre enfants qui je peux voir pendant un mois. Toujours la même personne.
Dans la maison?
Oui, je ne peux voir qu'une personne. Et donc, voilà, c'est
mais attendez, mais comment font les familles qui ont le papa, la maman et des enfants?
Tout ça est un grand point d'interrogation. On ne sait pas comment on va s'organiser. Et puis, une personne pendant un mois. Et puis, je pense qu'on peut voir quatre personnes de temps en temps, voilà, pour des dîners ou des trucs comme ça, de la famille.
On dit donc, on dirait un film de science-fiction.
C'est un film de science-fiction.
On dirait une uchronie, on dirait même pas que c'est vrai. On est tous là dans le studio. Marc Borallon, Mathieu Charrier, que je salue tous les deux, en vous écoutant en disant, mais c'est pas vrai, c'est pas possible.
Oui, nous, on se plaint de notre couvre-feu, mais...
Ouais.
Mais Mathieu... il y a un couvre-feu chez nous aussi. Hein.
Alors, le cinéma avec vous, avant 21h, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça commence demain, puisqu'on est mercredi.
Effectivement, d'abord, allez voir Miss, notre film européen de la semaine, signé Rune Ben-Alves. Alors, Alex est un petit garçon qui a 9 ans, on est au début du film, il annonce à ses camarades de classe que lui, son rêve, c'est de devenir Miss France. Tiens, on le retrouve quelques années plus tard, il a maintenant la vingtaine. Il est androgyne, Alex aime s'habiller en femme quand ça lui chante. Entre-temps, ses parents ont disparu, ça va pas très fort dans sa vie, et il se dit alors qu'il va le réaliser ce rêve, qu'il va présenter le concours de Miss France, en dissimulant bien sûr le fait que c'est un homme, et aidé par une galerie de personnages hauts en couleur, une sorte de famille d'adoption avec laquelle il vit dans un appartement tenu notamment par Isabelle Nanty, vous avez aussi Thibaut de Montalembert en travesti prostituée, eh bien Alex va présenter le concours Miss France, il est joué par Alexandre Véter.
Le monde de Miss France, c'est vrai que c'est particulier, mais c'était très drôle, c'était intéressant, en plus j'étais vraiment avec des vraies Miss. Je me suis vraiment sentie Miss, j'étais vraiment une Miss. Et puis de voir tout l'envers du décor. Parce que bon, souvent, moi, c'est vrai que j'avais un regard sur Miss France, bon, assez second degré. Et là, je me dis, bon, on leur demande quand même de sacrés trucs aux filles.
Voilà, Miss, qui est un film lumineux, grand public, joyeux aussi, je le dis, faut pas avoir peur du thème, drôle même parfois. Et ça traite donc de cette question du genre, de la tolérance, on ne peut plus dans l'actualité. À voir en famille, si vous le souhaitez pendant ces vacances, sincèrement, avec vos ados, ça peut ouvrir le débat. Mais en tout cas, c'est à ne pas louper, ça s'appelle Miss, c'est signé Ruben Alves.
Votre deuxième conseil ciné, Mathieu, pour la semaine, c'est Adieu les cons. J'adore ce titre, le nouveau film d'Albert Dupontel.
Eh oui, après notamment Bernie, 9 mois ferme, Au revoir là-haut, pour ne citer que, c'est donc la nouvelle réalisation d'Albert Dupontel, dans laquelle il joue d'ailleurs une nouvelle fois l'un des rôles principaux. Alors, c'est JB, fonctionnaire geek, qui a décidé de mettre fin à ses jours après s'être vu refuser une promotion qu'il attendait. Par chance pour nous, spectateurs, il se loupe et il va alors croiser la route de Suez, de Suze, une coiffeuse atteinte d'une maladie incurable à cause des produits toxiques qu'elle a utilisés toute sa vie et qui a décidé de mettre à profit les quelques semaines qu'il lui reste à vivre pour retrouver son enfant qu'elle a abandonné à la naissance. Là, ils vont croiser la route d'un archiviste aveugle, qui est un romantisme fou, c'est Nicolas Marié, et partir à la recherche donc de cet enfant devenu grand, entre des open space bien trop rangés, des lotissements aux maisons, vous savez, bien trop alignés, des ascenseurs bien trop automatisés. Mais alors justement, le titre Adieu les cons, qui sont ces cons, Albert Dupontel?
Les cons, c'est vous, c'est moi, et c'est ce qu'on fait de nous. Mais je pense qu'on est tous abîmés. Voilà. Je pense que l'école nous rend tous un peu branque, nous apprend un système de valeurs qui n'est pas le bon. Dans le meilleur des cas, quand on est bon élève, on finit soit à l'Élysée, soit dans une banque, ou les deux, c'est encore pire. C'est ce qui nous arrive. Il n'y a pas de dénonciation, si tant est qu'encore une fois, j'aime pas le mot message, mais il y a un petit discours, c'est la difficulté de s'aimer dans un monde répressif. Mais c'est tout. Il n'y a aucun militantisme chez moi, mais je n'ai aucune politisation de parole, vraiment aucune.
Voilà, je vais vous dire, ce film, c'est à la lisière de la fable. Il alterne burlesque, propos politiques, vrais moments romantiques, et surtout, il décrit avec minutie au fil des minutes. vous savez, cette société qui étouffe l'individu, ce tout numérique complètement kafkaïen. Et pourtant, malgré tout ça, on a envie d'y croire. C'est une petite heure et demie de grand cinéma, donc vous pouvez aller à la séance de 19h15, vous serez rentré à temps. Ouais. Ça s'appelle donc Adieu les cons.
Et puis dans un tout autre style, vous parlez maintenant d'un film de zombies.
Peninsula, qui est une sorte de suite au Dernier Train pour Busan, qui avait emballé Cannes et les spectateurs, qui racontait comment un père et sa fille tentaient d'échapper à une horde de zombies. C'était fait avec peu de moyens, c'était terriblement efficace. Là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, suite au succès du film, évidemment, le réalisateur a vu son budget doublé pour Peninsula. Les zombies ont désormais envahi la péninsule et quelques mercenaires partis à la recherche d'un trésor vont tomber sur une bande de survivants complètement fous. C'est efficace, c'est moins surprenant que le premier. Reste que si vous aimez les films de zombies, allez-y, vous serez servi.
Et puis les vacances scolaires ont démarré et les zombies ne vont plus en classe. On imagine que l'offre au cinéma s'adapte.
Avec notamment deux films. Le premier, c'est Police, signé Nicolas Vanier. Alors il y a tous les ingrédients du film familial. Très franchement, ça fonctionne. Je demande donc une petite fille qui s'appelle Cécile, 10 ans, qui vient de déménager dans le sud de la France avec sa maman, jouée par Julie Gayet. On est dans les années 60. Là, vous ajoutez un petit poney, vedette maltraitée d'un cirque dirigé par Branck Kalou, c'est Patrick Timsit, et un ermite rejeté par tout le village, Victor, incarné par François Cluzet. Vous me voyez venir, notre petite fille va sauver le gentil poney, aider de ce Victor, le réhabilitant au passage. Écoutez Nicolas Vanier et Patrick Timsit.
Il faut changer aussi notre relation à l'animal, qui doit être tout simplement empreinte de respect. Quand je parle d'animaux de cirque, voilà, c'est le respect que nous devrions avoir pour ces espèces qui partagent cette petite planète avec nous.
Il y a beaucoup, beaucoup d'actualité. C'est un film d'actualité. Et moi, évidemment, maltraiter les enfants et les animaux, merci Nicolas Vanier du cadeau. Il n'y a rien de meilleur.
Voilà, je vous décrivais le film sur le ton de la plaisanterie, mais vraiment c'est efficace, je l'ai vu avec ma nièce de 13 ans, elle a fonctionné. Idéal pour ses vacances, Polish signale au passage la sortie de la BD qui accompagne le film, elle est éditée chez Glénat. Du film à la BD et maintenant de la BD au film, je travaille mes transitions avec Le Petit Vampire de Johannes Farr qui est aussi adapté au cinéma. Vous savez, notre petit vampire, il vit dans une maison hantée, il s'ennuie terriblement avec tous ses copains monstres. 300 ans qu'il n'a pas le droit de sortir, 300 ans qu'il a 10 ans, et lui ne rêve que d'une chose, aller à l'école pour se faire des copains. Si bien qu'un soir, aidé de son fidèle bulldog, il s'échappe, début des ennuis et d'une mignonne aventure. Personnellement, je préfère la bande dessinée, mais voilà, avec vos enfants, ça fait aussi une belle sortie pendant ses vacances.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, vous avez beaucoup rigolé Frédéric François. Il y a un film qui vous tente, lequel irez-vous voir?
Les zombies.
Le dernier, là, je pense que c'est, ça doit donner des frissons, ça doit être sympa aussi et rigolo.
Le petit vampire et les zombies, jolie thématique pour ce mercredi. Dans un instant, notre deuxième indispensable, on va parler série avec Margot Barallon, mais d'abord musique, Aloé Black.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Frédéric François, qui est un fan de séries, je le sais. On va parler de l'Olympia, on va parler de la tournée. Il y a un nouvel album qui va sortir, ce sera le 13 novembre. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous parlez de séries ici et aujourd'hui, vous nous conseillez une série sur Arte qui s'appelle Moloch.
Oui, et c'est une série qui démarre comme une enquête policière. Nous sommes quelque part en France, dans une ville portuaire qui ne sera jamais nommée. Et un jour, soudainement, un homme prend feu dans un centre commercial. Il se transforme littéralement en torche humaine. Wow. Le crime est signé, Moloch, d'où le titre de la série. Le problème, c'est qu'absolument personne ne comprend ce qui s'est passé.
Je cherchais des traces de combustible, gaz, liquide inflammable, produits chimiques, court-circuit, rien. J'ai vérifié la matière des vêtements pour voir si la flamme d'un briquet, par exemple, pouvait avoir causé un embrasement si violent. J'ai tout passé au crible.
Et
toujours rien, je comprends pas ce qui a pu se passer. J'ai jamais vu un truc pareil.
Quoi, il s'est enflammé tout seul? Comme ça?
Alors, cette scène de médecin légiste, on a un peu l'impression de l'avoir vue dans toutes les séries policières, mais attention, Moloch n'a rien de classique. D'abord, c'est une série policière sans policiers, ou quasi.
Ah oui ?
L'enquête est menée par une jeune journaliste, Louise, et par Gabriel, le psychiatre de la victime. Alors, au début, le courant passe pas très bien entre les deux, mais ils ont un point commun, ils sont complètement obsédés par cette affaire.
Vous aimeriez bien penser à autre chose, mais vous n'y arrivez pas. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Le premier qui apprend un truc le raconte à l'autre, d'accord ? Équipe.
Alors on est plutôt dans quel genre de série si c'est pas une enquête policière classique, Margot ?
Eh bien c'est difficile de faire entrer Moloch dans une case, il y a une part de thriller mais aussi de fantastique et même de politique. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Arnaud Malherbe, le créateur de la série, il voulait absolument donner un propos social à son œuvre et ça c'est vraiment très réussi puisqu'en fait très vite, Louise et Gabriel vont s'apercevoir que Moloch ne frappe pas au hasard. En fait, toutes ses victimes ont fait le mal d'une façon ou d'une autre autour d'elle. Lui, c'est une sorte de justicier et du coup, ses crimes vont être récupérés par des groupes politiques radicaux.
On ne débat pas face à son tortionnaire. On combat. On n'argumente pas face aux banquiers. On pète leurs vitrines. On ne négocie pas avec l'industrie alimentaire. On bloque leurs usines. T'as d'argumentes. Des murs. ici. C'est fini tout ça. Les opprimés, les exclus, les blessés, les petits, ils discutent plus.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce dialogue, il m'a fait beaucoup penser à un certain discours, notamment Black Bloc, qu'on a entendu, notamment au moment des Gilets jaunes. C'est assez intéressant parce que la série a été écrite avant, mais elle a vraiment su capter comme ça l'air du temps, le climat un peu de révolte qu'on connaît en France depuis quelques années.
Alors, on ne l'a pas dit, mais on l'a compris, c'est une série française. Et côté casting, est-ce qu'il y a des têtes connues ?
Oui, il y a celle d'Olivier Gourmet, notamment, qui incarne le psychiatre Gabriel. Et Louise, elle est interprétée par Marine Vacht, qu'on avait pu découvrir notamment dans Jeune et Jolie de François Ozon. Vraiment, les deux sont excellents. Il y a une belle alchimie qui fonctionne bien. Et puis, un mot aussi sur l'esthétique, parce que vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Dans cette série, on avance dans des tons gris-bleus, une ambiance un peu trouble, post-industrielle. Donc, Moloch, c'est une histoire qui est très prenante, mais c'est aussi une série avec une véritable identité visuelle.
Rappelez où on peut la voir.
Eh bien, les 6 épisodes sont déjà sur arte.tv. Et puis, si vous préférez attendre à l'ancienne, le passage télé, ce sera diffusé jeudi soir.
Merci beaucoup, Margot Barallon. Frédéric François, vous êtes fan de séries.
Oui, pour actuellement, je regarde plein de séries, bien sûr, à la maison avec ma femme. On vient de finir une série qui s'appelle Jane the Virgin.
Sur Netflix. J'ai pas regardé. Hein,
je connais pas du tout.
Non,
que
mais
c'est
extraordinaire. C'est vraiment voilà l'histoire d'une fille vierge, voilà vierge, bien sûr, qui voilà une erreur médicale. Il y a 2 patientes et elle se fait inséminer par un sperme qui n'est pas le bon et on lui dit mais vous êtes enceinte. Ouais. Il dit non, jamais, j'ai jamais couché avec personne.
Ouais. Mais attendez, c'est La vie est un long fleuve tranquille version PMA.
Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y a Rogelio Xiomara, mais Rogelio me ressemble. Et alors, mes filles qui sont dans le cinéma me disent « Waouh, papa, il a les mêmes tics que toi, il fait les mêmes gestes et tout, mais c'est vraiment toi, c'est extraordinaire. »
Vraiment bien. Et cette série, ça vous a tenté, celle dont parlait Moloch, celle dont parlait Margot Barallon ?
On est curieux de savoir si à la fin, on découvre qui il est vraiment. Voilà,
je,
c'est ça.
Je mais
ça,
vous dirai
c'est ça toute l'énigme.
Ah non, mais même sous la torture, elle ne le dira jamais.
Je ne le dirai pas.
Merci beaucoup, Margot Barallon. Vous restez avec nous, Frédéric François.
Oui.
Culture Média continue.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Frédéric François, avec une triple actualité, mais une triple actualité lointaine, parce que l'Olympia, ce sera le 30 octobre.
Oui.
2021, nouvel album, La Liberté d'Aimer, ça sort le 13 novembre,
oui.
Et tournée européenne. Alors, elle va se faire quand cette tournée ?
Ah bah normalement, je recommence le 27 février à Lille.
Ouais.
Je croise les doigts parce que ça me manque énormément. Ça fait presque un an que j'ai plus vu le public et j'ai plus partagé ces émotions pendant 2 heures, ces histoires d'amour. Et donc voilà, j'espère que ça va reprendre le 27 février.
Alors, contrairement à beaucoup de vedettes des années 70-80, vous n'avez jamais participé aux tournées du style Achetant de tête de bois ou alors Star 80. Pour quelle raison ?
Parce que tout simplement, parce que j'étais présent dans les années 70, 80, 90 et jusqu'à ce jour.
Et ça marche toujours sans ça.
Et oui, je fais des spectacles de 2 heures et les salles sont remplies, donc je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas les chanter dans Star 80. Voilà, ce sont des gens, en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'ils reprennent la scène et tout ça. Mais en général, ce sont des gens qui ont existé dans les années 80 avec 1 tube ou 2 tubes ou 3 tubes. Et donc nous, comme on traverse toutes les décennies,
ouais.
Voilà, on fait des one-man shows de 2 heures. Et donc on ne pourrait pas aller dans ce genre de truc, tout simplement.
Puisque vous parlez de la durée, vous avez déjà pensé à vous reconvertir en conseiller conjugal ?
En conseiller conjugal.
Je vous demande
oui,
ça,
vous me dites
parce
ça.
Que vous êtes toujours avec Monique, que vous avez épousée en 70, ça tient donc depuis 50 ans, vous avez 4 enfants, mmh. Il y a plein de gens qui doivent se dire, mais c'est quoi le secret ?
Ah bah, le secret d'abord, c'est l'amour.
Alors, c'est la même question, c'est quoi le secret pour que l'amour dure 50 ans ?
Oui, mais la promesse que l'on s'est fait, et puis voilà, il faut être attentif, il faut être à l'écoute, il faut être, voilà, il faut la surprendre au quotidien, rien n'est jamais acquis, et donc voilà, un restaurant, un petit cadeau, des mots doux, voilà, tu me manques, le téléphone, on s'appelle, elle vit pour moi et je vis pour elle.
Il faut aussi se coiffer, ce qu'elle raconte Hélène Manarino, il faut se coiffer avant d'aller se coucher.
Ah, ça c'est encore autre chose. Ça les fait rire, ouais. Mais voilà, ça
journal,
c'est moi.
Il y a un journal de Bruxelles qui a dit de vous que vous êtes le plus sicilien des chanteurs belges. Vous êtes né en Sicile,
oui.
Dans un petit village qui s'appelle
Lercarafridi.
Et alors j'ai appris en préparant cet entretien que la municipalité a fait poser une plaque sur la façade de la maison dans laquelle vous êtes né.
Voilà,
c'est bien ça.
Une plaque commémorative qui a été posée sur la maison où je suis né.
Avec donc, quel nom? Il y a marqué Frédéric François.
Oui.
Ou votre vrai nom?
Votre nom Francesco, de baptême. Francesco Baracato, dit Frédéric François, alias Frédéric François. Et donc voilà, cette plaque commémorative a été mise sur ma maison et nous sommes deux à deux rues différentes.
C'est ça, il faut raconter parce que là, je revenais pas. J'ai relu le papier que j'ai lu. Oui. Il y a deux sommités, deux chanteurs nés dans ce petit village.
Oui, voilà, il y a bien nous, mais avant nous, et il y a la plaque commémorative de Frank Sinatra, parce que son père et son grand-père sont nés à une rue de chez moi. On a été baptisés dans la même église, et voilà, ils sont partis en 1900, comme mon grand-père, vers les États-Unis. Donc, lui, il est parti à Hoboken, ouais. Mon grand-père aussi, sûrement à Brooklyn et tout ça. Et Frank Sinatra, bien sûr, est né en 1915 à Hoboken, mais il est l'enfant du pays, en fait.
Et vous avez eu la chance de le croiser, ou l'existence en fait que vous l'avez
jamais
rencontré?
Parce que bon, il avait l'âge de mon père et donc voilà, on n'a jamais eu l'occasion, mais il fait partie de ma vie, j'ai tous ses livres, je connais toute son histoire par cœur et donc voilà, jamais on avait su qu'il venait de notre village, ouais. Parce qu'il disait qu'il venait de Catania, de Palerme, mais en fait il est bien, toute la famille Sinatra est bien née à l'Erkara Fridit, à tel point que dans le village où j'ai grandi, à Tiller, il y avait l'épicerie chez Sinatra, ça pouvait pas être dingue. Et mon premier bal que j'ai fait, ben, en attraction, c'était Les Éperviers, et en attraction, François Sinatra, qui est mon copain depuis toujours.
On est une émission média ici. Il paraît que vous avez été approché par TF1 pour participer à Danse avec les Stars. Pourquoi vous avez dit non?
Parce que je ne sais pas danser.
Il y en a plein qui ne savent pas danser.
Mais c'est tout bête, je ne sais pas danser. Et donc voilà, je ne veux pas être ridicule. Si je savais danser, ben j'aurais accepté et je l'aurais fait. Mais voilà, voilà, je suis quelqu'un de très timide, de très réservé et tout ça. Et donc, voilà. Je danse slow, pardon. Ouais, par contre.
Vous dansez
là,
les slow.
Là, sans problème.
Bon, danse des slow avec les stars. Vous pouvez appeler Frédéric François. Là, on vous attend. Donc, je rappelle, l'Olympia sera le 30 octobre 2021. Nouvel album, La Liberté d'aimer, qui va sortir le 13 novembre, ce qu'on entend. Et puis, la tournée, quand elle pourra se faire,
voilà,
avec le confinement, le couvre-feu et tout ça. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec le producteur Dominique Besnéard et la comédienne Liliane Rovert. C'est le retour tant attendu de la série 10%. Vous la suivez, 10%? Ça sera demain, voilà. Et puis, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Et puis, le poète du piano, c'est Alexandre Tarot qui va nous parler de son nouvel album. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, c'est le titre. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.